Maryse Massé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ergothérapeute et là pour nous parler de l'importance de la stimulation précoce. Et d'entrée de jeu, Maryse, j'ai envie de parler. Bien sûr, on va revenir sur les débuts de vie de ces enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Mais Thomas, il a 13 ans et on se rend compte que Isabelle, sa famille, continue à vouloir le stimuler. Tout à l'heure, on parlait aussi de la perte des acquis pour des personnes plus âgées qui vivent avec une déficience intellectuelle. La stimulation, c'est pas juste de façon précoce, c'est à tout moment de la vie.
Ben, en fait, oui, vous avez tout à fait raison. C'est à tout moment de la vie, on est en apprentissage, on développe des habiletés. Ça se passe pas juste entre 0 et 7 ans. Tout ne se joue pas avant 7 ans.
Mm-hmm.
Ça se développe tout au long de la vie. On s'ajuste, on fait face à des nouvelles situations, à des nouveaux stimuli. On a plein de chances de développer, de s'adapter, de développer de l'autonomie, des nouvelles connaissances aussi, des habiletés. J'ai déjà vu des enfants qui ont appris à marcher à l'âge de 9 ans.
Ah oui.
À force de persévérance de la part des parents, beaucoup, dans la stimulation, justement.
Mm-hmm. La stimulation précoce, c'est important, bon, pour bien des enfants, là, mais notamment, c'est essentiel pour un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle. Pourquoi, Maryse Massé?
Ben pour plusieurs raisons, en fait. Il y en a plusieurs pour l'enfant d'abord, pour l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages. Vous savez, les enfants, le cerveau des enfants se développe à une vitesse assez fulgurante. On parle qu'une maturation du cerveau se fait de façon séquentielle. On sait aussi qu'en bas âge, les circuits neuronaux qui se tissent c'est vraiment très, très abondant sous l'effet de la stimulation externe. On entend des fois parler de plasticité neuronale. Donc, on saisit cette opportunité-là, cette fenêtre d'opportunité-là dans le développement de l'enfant, mm-hmm, pour stimuler au maximum et de façon précoce.
Oui. Vous me disiez, Maryse, c'est qu'on veut aussi devancer le développement avec un enfant qui a une déficience intellectuelle,
oui,
peut-être pour pallier à son manque de curiosité.
De curiosité, d'initiative, que je vous disais tout à l'heure, le développement chez un enfant est séquentiel. Chez un enfant normal, entre guillemets, il va chercher sa stimulation beaucoup par lui-même dans l'environnement. Avec un enfant qui a des retards de développement ou des troubles développementaux, on a besoin de le mettre en situation souvent pour l'amener à vivre ces expériences-là puis à se construire son développement à travers ça.
Isabelle?
Bien, le meilleur exemple, mon fils devait avoir 20 mois, 24 mois, et on lui donnait des jouets. Et il ne jouait pas. Mmh. Et je ne comprenais pas. Et à ce moment-là, nous n'étions pas en service et on avait embauché quelqu'un au privé. Et j'oublierai jamais cet ergothérapeute-là qui s'était placé derrière Thomas et qui avait posé ses mains sur les mains de Thomas, et qui lui montrait comment jouer. Puis c'est là que j'ai compris ce qu'était du main sur main.
Oui.
Et je me trouvais assez incompétente, pour ne pas dire poche. Et je me suis dit, on a besoin de professionnels, c'est certain. Et là, passe dans ma tête, je comprenais pas pourquoi notre garçon ne jouait pas.
Quand les deux grands, eux, avaient joué à 24 mois, là.
Oui. Mais c'est parce que normalement, tu présentes des jouets à un enfant, puis il joue.
Oui.
Avec Thomas,
oui,
c'est pas comme ça que ça se passait.
Oui. Oui.
C'est vraiment très intéressant, surtout quand on a d'autres enfants. On peut penser qu'on a déjà élevé des enfants, tout s'est bien passé, pourquoi ça serait différent avec le petit dernier? Et ça peut être très ébranlant pour des parents dans leur capacité, dans leur compétence parentale d'observer ça, de dire, ben oui, il faut devancer, oui, il faut montrer, il faut leur apprendre à jouer, il faut leur apprendre à utiliser des objets ou à se comporter dans certaines situations.
Mm-hmm.
Et ça demande de connaître le développement sur le bout de ses doigts.
Oui, mais un parent, parfois, n'est pas ce spécialiste-là. Maryse, quand on parle de stimulation précoce, là, moi, je pense à un programme. Ça consiste à quoi? C'est quel genre de spécialiste? Qu'est-ce qu'ils font? Dans quel genre de contexte?
Oui, mais encore là, ça se fait dans plusieurs contextes.
Hein. Okay.
Je pense qu'il faudrait pas... je pense qu'on ferait erreur si on regardait une vision très statique de la stimulation précoce dans un centre de réadaptation, dans un local, etc. Ça peut être ça, mais il faut que ça se vive dans le quotidien, il faut que ça soit intégré dans la routine quotidienne, donc dans le milieu le plus naturel possible, à mon avis. Ça doit se faire en équipe interdisciplinaire, avec okay. les parents au cœur de tout ça, là. Mais il faut faire équipe autour de l'enfant. Puis je dis équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire, là. Mais il faut faire équipe. Que ce soit l'éducatrice en garderie, que ce soit les parents, les grands-parents, la fratrie et les professionnels autour de cet enfant-là qui posent... Il faut travailler tout le monde dans le même sens en passant par bien comprendre, hein, bien évaluer les besoins de cet enfant-là, mm-hmm. le situer dans son développement. Justement, pour être capable de micro-graduer nos apprentissages, il faut bien situer sur quelle marche il se situe pour l'amener à la marche suivante. Il faut les prioriser, ces besoins-là, établir des objectifs, tout le monde ensemble. Et après ça, bien évidemment, intervenir. Puis l'intervention, il y a beaucoup de mobilisation et de soutien dans l'intervention.
Et de patience, on l'entend bien. Oui. Vous aviez envie d'intervenir?
Moi, je voudrais préciser qu'en déficience intellectuelle, contrairement à un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, il n'y a pas de programme comme tel de stimulation précoce. Et moi, j'ai vécu des grosses frustrations quand Thomas était enfant parce que je voyais des enfants pris en charge lorsque ceux-ci avaient un diagnostic de TSA, alors que mon Thomas, qui avait une DI, avait droit à une heure ou deux semaines, alors qu'un enfant
avec un TSA,
avait droit à une douzaine d'heures par semaine.
C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de recherches, puis il y a moins de programmes qui ont été mis en place, mais ça commence à bouger un petit peu dans ce sens-là.
Bien, il faudrait, parce que comme parent, moi, je me disais, est-ce que mon enfant vaut moins qu'un enfant TSA?
Oui. Puis Marie, vous avez parlé de quelque chose aussi d'intéressant, c'est que le parent, il y a une part de responsabilité, on l'entend, c'est-à-dire que la stimulation précoce, là, ça doit se continuer à la maison, dans le milieu naturel, mais le réseau de la santé, lui aussi, il y en a des responsabilités par rapport à ça.
Oui, je pense que tout le monde a une part de responsabilité, là. Quand je dis qu'il faut vraiment travailler ensemble, c'est aussi avec les gens, c'est tout le monde qui entoure l'enfant, en fait, là.
Oui.
Et le réseau de la santé, oui, il y a une part de responsabilité dans venir offrir son expertise. Tout à l'heure, quand je disais qu'il faut connaître le développement sur le bout de ses doigts, on ne s'attend pas à ce que les parents connaissent le développement d'un enfant sur le bout des doigts, que ce soit le développement du langage, le développement de la motricité, le développement cognitif. On ne s'attend pas à ça. Par contre, il développe beaucoup, beaucoup de connaissances au travers du temps. Mais le soutien, je pense qu'il est... Il est à ce niveau-là, plus que dans l'intervention comme telle, bien qu'on suggère dans le réseau maintenant pour les enfants qui ont un retard global de développement ou une déficience intellectuelle, on va suggérer 5 heures d'intervention par semaine.
Ouais.
C'est ce que le nouveau guide de pratique qui est en implantation au Québec suggère.
Ouais. Et l'enfant, là on parle d'enfant... Bon, stimulation précoce amène à penser à un enfant en bas âge. Le réseau de la santé accompagne l'enfant et sa famille jusqu'à quel âge? Est-ce que c'est aussi le fameux 21 ans, Maryse?
Ça va au-delà du 21 ans. Les services sont offerts de 0 à 99 ans.
Okay.
Ils sont modulés dans le temps, évidemment. Il y a beaucoup d'efforts et d'énergie qui sont mis à l'intervention précoce. On connaît les données probantes, on sait que c'est important d'intervenir rapidement. Malgré là, les embûches qu'on peut y voir, là, on y reviendra peut-être plus tard, mais on tente d'intervenir le plus tôt possible. Et ensuite, les services vont se moduler dépendamment des besoins, de la disponibilité des ressources aussi. Quand l'enfant entre à l'école, ensuite aux transitions. Hein, on parlait de la transition tout à l'heure, je vous entendais parler de la transition à l'âge de 21 ans.
Oui.
Vers le marché du travail, vers la vie adulte. Il y a des services qui sont offerts aussi, qui sont axés beaucoup plus sur la participation sociale, l'intégration sociale à l'âge adulte.
Bien, on n'a plus beaucoup de temps pour les obstacles, mais je sais que vous en avez souligné, identifié quelques-uns, Maryse Massé. Il y a les services inégaux, que ce soit dans les provinces. Vous avez parlé aussi de la disponibilité des professionnels, entre autres choses. Ça, vous l'avez remarqué.
Non, tout à fait. Tout à fait. Il y a des défis qui sont importants. Il y a vraiment beaucoup de place à amélioration. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer les services, l'accessibilité, mais il reste que c'est encore difficile. C'est difficile d'obtenir un diagnostic, c'est difficile d'obtenir les services.
Oui.
Les établissements sont confrontés à des réalités. Vous parliez de recrutement, des fois de professionnels, de la stabilité du personnel aussi. Parce que des fois, le personnel est là, mais le personnel change. Puis on sait qu'auprès d'un enfant, auprès d'une famille, c'est difficile d'avoir à vivre beaucoup de changements d'intervenants. Et c'est malheureusement une réalité qui est vécue dans le réseau.
On aurait eu encore besoin de plusieurs minutes pour aller au fond de ce sujet-là. Maryse Massé, vous êtes ergothérapeute. Merci beaucoup de votre temps.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.